in the slum, can't get off the bum. Itchy, itchy, and it's getting well, well sticky.
Il est 20h02 et tout de suite retrouvez votre nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Génération Sport. On a un programme plutôt chargé en termes d'actualité et en plus on a un invité ce soir. Je vais tout de suite présenter les joueurs qui vont m'accompagner ce soir avec son beau maillot de Marseille, Amaury. Salut Amaury.
Salut Faustin, ouais, j'étais obligé, une victoire qui a fait très plaisir ce week-end, donc forcément sans le maillot comme toi tu l'avais fait la semaine dernière avec le Barça.
Ouais, c'est un peu mieux passé, un peu moins bien passé on va dire.
Pour enfin, toi.
Bref, on en reparlera après. Mathéo est aussi là ce soir, salut Mathéo.
Bonsoir Faustin, bonsoir à tous. Et bah écoute, j'ai pas sorti le maillot moi, étrangement on n'a pas gagné ce week-end, c'est compliqué, mais il y a eu une autre très belle victoire, on en reviendra dans le JT International, mais c'était un beau week-end de sport.
Voilà, évidemment, et plein de belles choses qui s'annoncent dans les semaines à venir. On reçoit aussi ce soir le club l'Union Saumur-Douai Handball, pardon. voilà, avec nous. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Voilà, et on passera évidemment à l'interview après les actualités locales. On va commencer sans plus tarder avec le basket et l'UFAB, l'EAB d'abord, pardon. Mardi dernier, les Angevins se sont imposés contre Charleville pour leur dernier match à Jean-Bouin, mais vendredi se sont inclinés 74-71 à Boulogne pour ce dernier match de la saison. Malgré la défaite, ils finissent premier de la poule basse de National 1 et resteront ainsi dans cette division la saison prochaine. Pour l'UFA, beaucoup de départs et de re-signatures sont connus dans l'effectif angevin, avec d'abord les départs de Joy Adams, Masséni Kaba, la capitaine Emmanuelle Tahan, ainsi que Axel Merceron. Et les joueuses qui vont rester seront Laura Mendes, Oumu Diarisso, Marine Dursus et Anna Ngo Njok. Une fois de plus, on a pas mal de mouvements dans cet effectif. Il faudra voir quels seront les recrues au cours de la saison, enfin au cours de cet été plutôt, pour voir comment cette équipe va se renforcer et pouvoir faire une meilleure saison que celle-là qui était déjà très bien. Du côté de Cholet maintenant, victoire contre Nancy sur le score de 95-74. Et cette journée de Betclic a permis d'assurer que l'adversaire de Cholet pour le premier tour des playoffs sera bien Bourg-en-Bresse. Contre cette équipe, Cholet avait pris une gifle 102-67 au match aller. Et on va voir un avant-goût de ce duel, car pour le dernier match de saison régulière, Cholet affronte Bourg-en-Bresse. Il se déplace là-bas et on va donc, on peut même dire, j'ai envie de dire que la série commence dès maintenant, dès ce week-end. Amaury, t'as l'air.
Bah pas forcément. Je pense que c'est un match où il va falloir aussi faire un peu. Même ça peut être bien de prendre confiance, mais on peut faire tourner, reposer un petit peu les corps avant ces matchs de play-offs qui vont eux vraiment compter. Si c'est pour prendre lui et derrière perdre le premier.
C'est vrai, mais tu peux déjà envoyer un message si tu mets un gros score. Non. On va voir ce pourquoi les Choletais vont opter pour cette rencontre, en espérant évidemment qu'ils remportent ce match. Le SCO maintenant, je pense, c'est la grosse actu locale de cette semaine, parce qu'ils l'ont fait. Le SCO est maintenu en Ligue 1 après cette victoire contre Strasbourg à Copa sur le score de 2-1. Après la victoire à Nantes la semaine dernière, les Angevins finissent parfaitement cette saison qui s'annonçait pourtant plutôt compliquée. C'est ce qu'on avait dit, Mathéo, dans les émissions précédentes. À chaque fois, on disait attention au calendrier, attention à Strasbourg qui joue l'Europe. Et pourtant, le SCO l'a fait.
C'est vrai qu'on n'y a pas cru, honnêtement, nous tous, pour le coup, je pense qu'on doit tous s'excuser auprès des joueurs, mais honnêtement, on n'y a pas cru, et c'était légitime, surtout au vu de la forme du SCO sur les dernières rencontres, depuis ce match contre Saint-Etienne, ce 3 partout, ouais. Qui avait un peu pesé dans les têtes. Derrière, il y a eu beaucoup, beaucoup de moins bien, et là, sur les deux dernières rencontres, il y a de l'envie. On voit aussi qu'il y a un groupe, alors ça c'est quand même quelque chose qui est à garder pour la saison prochaine. Au-delà de l'effectif, c'est ce groupe, il y a des joueurs même au niveau des plus vieux, peut-être qu'il faut les garder à ce niveau-là parce que c'est eux aussi qui permettent un bon fonctionnement et puis derrière de faire des résultats comme cela, parce que Strasbourg était invaincu depuis février. Ouais. C'est assez énorme de battre Strasbourg, alors en championnat mais quand même, et même avant ça, hein, leur défaite en février c'était contre Rennes, et avant ce match contre Rennes ils n'avaient pas perdu depuis 5 matchs je crois, un truc comme ça. Donc ça reste des stats assez affolantes, et le SCO l'a fait contre toute attente face à une équipe qui a peiné offensivement mais qui a quand même concédé 2 buts d'Esteban Le Poll, et je pense qu'Esteban Le Poll restera cet été, en tout cas c'est ce qu'on souhaite forcément.
Bah ouais, évidemment, une fois de plus buteur, un nouveau doublé. C'est Amaury, ça a vraiment été le joueur phare, l'attaquant phare d'Angers cette saison.
Bah oui, surtout il est à 9 buts je crois en Ligue 1, et en sachant qu'il a quasiment pas joué en tout cas en tant que titulaire de la première moitié de saison, et qu'on voit comment Angers servit en deuxième partie de saison, c'est en grande partie grâce à lui. Il s'est révélé comme un très bon attaquant de Ligue 1. Maintenant, il va falloir le garder. Tu dis que tu penses qu'il sera sous les couleurs du SCO l'année prochaine. C'est sûr qu'il va y avoir des offres. Maintenant, est-ce que lui a envie de rester avec le SCO, et combien le SCO est prêt quasiment à refuser pour pouvoir le garder et peut-être encore le vendre plus cher et surtout réussir à se maintenir encore l'année prochaine. On verra.
En fait, c'est toujours le problème, c'est que les avant-centres, c'est très prisé en Europe. Donc forcément, on va pouvoir en tirer un bon billet si on le vend maintenant. Mais je pense que le SCO a forcément envie de le garder. Il a que 6 mois dans les jambes, donc c'est pareil. Quel club ira vraiment sur Esteban Le Poll cet été et pourra lâcher un 10 millions, peut-être 5-10 millions sur Esteban Le Poll? Ça paraît compliqué.
J'espère plus 10 que 5 quand même pour le SCO.
Oui, bah ça serait plus logique, mais en même temps, on sait jamais. Pour le coup, c'est toujours ça, hein, le mercato. On sait jamais ce qui s'y passe. Mais par contre, il y a des joueurs qu'il va falloir garder, d'autres sur lesquels on peut déjà quasiment tirer une croix. Je pense à Abdelli, forcément. Ouais. Abdelli, ça va être très compliqué de le garder, mais c'est pareil. Si on le garde et qu'on arrive derrière à renforcer un peu plus l'effectif, ça peut être très cohérent pour l'année prochaine.
Yaya Fofana.
Yaya Fofana, il faut le garder bien sûr. Même des joueurs comme Raoul Izoa et puis Belkdim qui avaient des offres. De Toulouse aussi des sollicitations, donc il va falloir garder cet effectif là, il va falloir construire quelque chose de concret. Est-ce que ça va être fait, on sait pas, mais en tout cas on va stresser cet été, je pense, tous ouais, ensemble.
Toutes les nouvelles vont être importantes, et on espère qu'elles soient toutes bonnes, on va dire, même si a priori il y aura pas de mauvaises nouvelles. Si un joueur part, ce sera pour un prix convenable, en tout cas on l'espère évidemment. Voilà,
un meilleur mercato que l'année dernière, ça serait bien.
Oui. Oui. Parce que l'année dernière c'était délicat en général. Le SCO a quand même un peu de mal avec les mercato de manière générale, donc on va espérer que là, pour construire quelque chose de concret en Ligue 1, ça va être positif, et ça va bien se faire. Un autre SCO, c'est le SCO Hand qui va jouer sa dernière journée de cette saison vendredi en réception de Caen dans la salle du Hara. En parlant de handball, c'est tout trouvé pour cette transition vers l'interview où je vous laisse aller, les gars.
Ouais, un club de handball qui a mieux réussi que le SCO, en tout cas avec son équipe Fagnon cette saison. En même temps, c'était dur de faire pire, hein. On a assez parlé tout au long de l'année. Donc c'est le club de l'USDH qui était déjà venu en début d'année pour nous parler d'un un documentaire que Thomas Mourette, ici présent, nous avait concocté sur la montée en pré-national. Et l'objectif cette année, on en avait parlé, on savait pas exactement quel il était. Au début, le maintien, puis au fur et à mesure, on commence à se mettre à rêver. Et en fait, ce week-end, un match qui pour la montée, pour le titre, qui a été gagné. Donc l'USDH valide une deuxième montée consécutive, un deuxième titre consécutif. On va commencer par une question déjà très simple. Comment on se sent après ça? Et on est heureux, j'imagine. Pierre-Élie, je présente rapidement Pierre-Élie, coach de l'équipe, et Léa, joueuse dans l'équipe.
Capitaine de l'équipe.
Oui, capitaine de l'équipe féminine.
Déjà, merci pour l'invitation, une nouvelle fois. Ça fait plaisir d'être là. Oui, on se sent soulagé, on se sent heureux. C'est beaucoup de pression qui redescend. Et en même temps, on en parlait tout à l'heure dans la voiture, on a quand même encore un peu de mal à réaliser, parce que c'était un match à l'extérieur, ce match de la montée. Donc, on a hâte d'être au 24, le dernier match à domicile, pour faire la fête avec tous les supporters et célébrer vraiment cette montée.
Elia.
Pareil, très contente pour l'équipe, pour toutes les joueuses qui se sont investies toute l'année. Et ouais, un soulagement sur ce dernier match. Et on va pouvoir être à fond sur le dernier match, jouer sans pression et profiter du dernier match à domicile et de tous nos supporters.
En parlant de pression, ce match-là, comment vous l'avez abordé? C'était une équipe censée être un peu plus faible sur le papier. Maintenant, quand on joue quelque chose d'aussi important, j'imagine qu'il y en avait un petit peu quand même.
Oui, il y en avait forcément un peu, ouais. Et sachant qu'on avait au moins une joueuse absente, donc il a fallu réadapter un peu notre défense. Et c'est une équipe qui est montée donc c'était la SPTT Nantes, c'est une équipe qui est montée en intensité sur le long de la saison. On les a rencontrés à la mi-saison, on avait gagné de 18 buts ou 19 buts, je sais plus, d'avance. Mais les résultats qu'elle produisait sur les derniers week-ends nous ont pas forcément rassurés. Donc on l'a pris avec beaucoup de sérieux. Ce qu'on s'est dit avant le match, c'est là, c'était le match pour justement ne pas vivre une pression trop intense sur le dernier contre les deuxièmes. On a déjà vécu ça l'année dernière, on aurait su affronter ça, mais ça aurait été beaucoup de pression qu'on préférait s'éviter pour justement pas gâcher la fête.
Toi, en tant que capitaine, comment tu l'as vécu? Est-ce que entre joueuses, vous êtes dit quelque chose de particulier?
C'était une pression pour toute l'équipe. Tout le monde savait que ce match-là, il fallait le gagner. Il était peut-être plus simple à gagner le week-end dernier que le week-end prochain. Tout le monde a tout donné. L'équipe, comme disait Pierre-Élie, n'a rien lâché tout le match. Donc nous non plus, on a dû tout donner jusqu'à la dernière minute. Et forcément, une pression pendant tout le match, parce qu'on n'avait pas le droit de perdre ce match-là. Mais une bonne pression aussi qui nous a motivés et qui nous a permis de gagner ce match jusqu'à la fin de la mi-temps, enfin du match en général.
On imagine, et puis bon, moi de mon côté, j'ai vu un petit peu les images, hein, beaucoup d'émotions à la fin, on l'a bien fêté, j'ai vu les petites stories du club, mais c'est une validation un petit peu dans même de tout ce qui est construit depuis 2 ans, de réussir à enchaîner comme ça.
Ouais, c'est même un travail sur 4 ans,
oui.
Parce que quand j'ai repris l'équipe il y a 4 ans, on s'est remis au boulot avec une équipe jeune, et là c'est vraiment la concrétisation de tout ce travail qui a été produit, tout le travail qui a été produit aussi cette saison où on est passé à 3 entraînements semaine, où les filles se sont beaucoup plus impliquées sur les séances, et ça a payé, ça, il y a pas de secret de toute façon.
Pour revenir maintenant un petit peu donc plus sur la saison en général, on reviendra peut-être à ce match à la fin de l'interview, mais quand vous étiez venu en début d'année, on parlait d'un objectif de maintien au début, puis après il y avait le match face à Châteaubriant, je crois, qui arrivait, qu'on disait très important pour la suite de la saison. Ce match, il avait été perdu, et derrière, en fait, c'est une série qui est folle. Quasiment, il y a eu un match nul depuis. On était bien sur l'objectif de maintien, du coup, en début de saison. C'est ça qui est fou.
Oui, c'était le maintien officiellement qui était annoncé. Moi, l'objectif de la montée, je l'avais forcément en tête, et ça fait quelque temps que je l'annonçais. Dans tous les cas, si ça avait pas été cette année, on l'aurait joué l'année prochaine. quand on est venu, on n'était pas serein. On a fait un début de saison un peu tremblant, on va dire, le premier match contre Montreuil qu'on perd. Puis après le match contre Châteaubriant, qui était premier invaincu, où on avait du mal encore à assumer notre niveau, je pense, en début de saison. Et puis depuis, on n'a pas perdu un seul match, sauf le match de Coupe de France, les 16e de finale, je crois, contre les 3e de N3.
Ce qui restait déjà une très belle performance.
Ce qui était une super perf, parce que pendant 40 minutes, on les domine. Et puis, il y a une joueuse qui se blesse, il y a les pompiers. Le match s'arrête pendant 30 minutes. Et du coup, derrière, on a du mal à repartir et les adversaires nous dominent. Mais oui, sinon, depuis le match de Châteaubriant, on n'avait pas reperdu un match.
Et concrètement, à quel moment on se dit on peut faire plus que se maintenir? Je me pose la question à toi, mais aussi après Léa, peut-être que c'est pas le même moment entre toi, coach, le moment pour les joueuses. Toi, à quel moment tu t'es dit on peut faire plus que se maintenir?
Je pense que ça s'est concrétisé à la mi-saison. Après le match contre les Herbiers, où beaucoup de frustration parce qu'on laisse passer la victoire. On repart avec un match nul alors qu'on menait de 7 buts à 10 minutes de la fin. Mais bon, on avait vraiment un visuel complet de ce championnat et je savais qu'on avait les armes pour aller chercher quelque chose. Alors c'était dans ma tête, c'était plus un top 2, top 3 et puis après il y a eu le match de Coupe de France justement là où on domine pendant 40 minutes avant la blessure de Pauline et où là je pense que tout le monde a eu le déclic de se dire bah oui, en fait on a les armes pour aller rivaliser avec de la National 3 et on a la capacité de le faire.
Toi Léa, de ton côté, et en tant que capitaine et aussi les autres joueuses de l'équipe, tu sens qu'il y a eu un déclic le même moment un peu plus tard, comment tu l'as senti?
Nous, je pense que c'est à la fin de la première phase, on se retrouve en haut du classement, en haut du classement je crois. Donc on est plutôt pas mal. L'équipe aussi est sereine et au fur et à mesure des matchs sur la deuxième phase, on gagne les matchs, on gagne contre Châteaubriant, l'équipe contre qui on avait perdu en première phase, un match qui avait été finalement difficile pour nous dans la tête aussi. Et ce match-là, on le gagne et là, on se dit, on peut le faire. Je pense que toute l'équipe est motivée aussi et on le sent aussi dans le collectif que c'est pas quelques joueuses qui veulent monter en N3. Finalement, c'est le collectif complet et avec 14 joueuses qui sont motivées, on peut que y aller. Et c'est comme ça, je pense qu'on a réussi à atteindre la première place.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment un esprit de groupe qui s'est créé où chacune a vraiment voulu. Ça fait que tout le monde vient à l'entraînement, tout le monde est impliqué. Et c'est plus même que les 7 joueuses qui vont commencer le match.
Non, c'est vraiment le collectif qui était motivé à atteindre ce niveau de N3.
Toi, Pierre-Élie, quand tu t'étais venu, tu nous avais parlé de prendre match après match dès le début de saison. Justement, quand il y a ce rêve qui commence à naître dans les têtes de chacun, de la montée, c'était important encore de prendre match après match, ou tu l'as fait, j'imagine, encore?
Ouais, tout à fait. Bah, même jusqu'au dernier match, tu vois, avant le dernier match, moi, j'avais un peu de pression, j'essayais de pas trop le montrer à l'équipe, et je me répétais, moi, en mantra, et en même temps, c'est ce que j'ai dit aux filles, on pense pas à ce qui va arriver après le match, on pense pas à l'enjeu du match, on vit l'instant présent et on vit le match. On vit le moment, on le joue ce match. Et donc du coup, c'est ce que je me suis répété à chaque match, c'est ce que j'ai répété aussi avant chaque match. Et bah ça a plutôt bien fonctionné, ouais.
Toi Léa, comment tu l'as vécu, peut-être cette montée en puissance au fur et à mesure de la saison? Tout à l'heure, on parlait d'un début de saison un peu balbutiant. Comment tu l'as vécu, cette montée en puissance?
Bah, forcément très très bien. Beaucoup de pression en arrivant en prénat sur les premiers matchs, et je pense que c'est ce qui nous a aussi déstabilisé sur les premières défaites en début d'année. On n'arrivait peut-être pas à assumer la place qu'on avait. Toutes les filles étaient stressées, enfin moi la première. Et je pense au fur et à mesure, on s'est entraîné, on a commencé à performer. Toute l'équipe était à fond, et je pense que c'est comme ça qu'on a réussi à monter en puissance. Comme dit Pierre-Élie, on a pris aussi les matchs les uns après les autres. On se donnait à fond sur chaque match. On essayait de pas se prendre la tête, de jouer collectif sur tous les matchs. et arrivé sur les 3-4 derniers matchs, forcément tu commences à moins penser match par match et plutôt à penser à la suite. Et c'est ce qui nous motivait aussi. On savait qu'on pouvait le faire et qu'il restait plus que 3 matchs, plus que 3 heures, comme disait Pierre-Élie. Et c'est ce qui nous a permis d'être là aujourd'hui.
Donc on l'a dit, c'est une deuxième montée de suite. Finalement, qu'est-ce qui a changé vraiment par rapport à l'année dernière? Déjà en termes de niveau, on a vraiment senti une différence entre l'excellence et la pré-nationale finalement, ou c'est l'équipe qui a vraiment progressé aussi, qui permet de monter deux fois de suite, ou c'est il y avait finalement pas tant de différence que ça?
Il y a une différence. Il y a une différence entre les deux niveaux de jeu. À côté de ça, l'équipe aussi a progressé. Donc, comme je disais, on est passé à 3 entraînements semaine. Les filles se sont beaucoup plus entraînées. Alors, tout le monde n'est pas à 3 entraînements dans la semaine, parce que chacune a aussi son emploi du temps personnel. Et puis, on est encore qu'un club amateur. Mais oui, non, le niveau de jeu est quand même plus haut. Les matchs sont plus intenses. On a moins le droit à l'erreur. En excellence, on pouvait dominer un match en perdant beaucoup de ballons, en étant pas toujours juste dans nos choix. Et là, on le paye un peu plus cash. Et on s'attend l'année prochaine à ce que le niveau d'exigence augmente encore. Mais bon, nous, il y a la confiance. On a pris énormément en confiance entre l'année dernière et cette année. On prend maturité. Et puis, les choses commencent à toutes se connaître un peu par cœur aussi. Donc, ça se ressent et c'est ce que les gens me témoignent aussi de l'extérieur. Voilà.
On a parlé de passer de 2 à 3 entraînements. Il y a d'autres choses qui ont été changées pour permettre cette amélioration et pour rester compétitif, même en montant de niveau ou pas?
Pas tant, à part le fait d'augmenter le nombre d'entraînements. Non, c'est beaucoup de communication, mais c'était déjà le cas. Enfin, non, il n'y a pas eu d'autres changements majeurs, non.
Et après, dans la manière de jouer plutôt, là, est-ce qu'on a changé des choses peut-être sur le projet de jeu qui peut être différent, etc. Ou on est resté vraiment sur une base et une continuité?
Non, on s'est adapté parce que l'année dernière, on avait un jeu beaucoup basé sur de la défense très étagée, très agressif sur l'attaquante et avec énormément de récupération de balles et beaucoup de jeux grand espace. C'est toujours notre point fort. Le jeu grand espace, on a dominé la plupart des équipes. Il y a peu d'équipes qui jouent aussi vite que nous et qui contre-attaquent aussi vite que nous. Mais on en a rencontré cette année alors que l'année dernière, c'était quasiment pas le cas. Mais par contre, on a dû s'adapter un peu plus défensivement parce qu'on s'est retrouvé quand même face à des joueuses qui étaient en capacité de nous mettre en difficulté en duel, en fille à fille. Et à plusieurs matchs, on n'a pas pu défendre étagé. Par exemple, on est resté en 0-6, avec quand même un petit peu de volume, mais il a fallu s'adapter quand même. Puisque ce que nous proposait l'adversaire était quand même un poil au-dessus de ce qu'on a rencontré l'année dernière.
C'est là où on voit la différence de niveau, justement, entre excellence et pré-national. Le club, lui, est-ce qu'il avait pu anticiper un petit peu cette montée à côté vraiment du groupe de l'équipe féminine?
J'ai distillé le truc depuis un moment maintenant. Je préviens les dirigeants qu'il faut se préparer à ça. J'essaye d'inculquer une philosophie de pouvoir répondre aux obligations tous les ans, qu'on puisse répondre aux obligations du niveau d'au-dessus. Donc là, on va jouer en N3. Je voudrais qu'on construise le club pour qu'il soit en capacité de répondre au niveau N2, parce qu'on sait pas ce qui se passera par la suite. Pareil pour les garçons. Donc pour l'instant, on est bon. Mais au niveau des obligations, ça devrait être bon. Là, on va se mettre au travail pour trouver des partenaires aussi pour nous aider, puisque d'un point de vue financier, ça va être forcément plus cher que l'année dernière, notamment en termes de déplacement. Et le but du jeu, c'est que la charge ne revienne pas sur le dos des filles. Donc voilà, je suis en train de travailler un petit peu à tout ça.
Ouais, parce que niveau déplacement, bon, on connaît pas les poules forcément exactement, mais ça fait aller jusqu'à où de jouer en N3
Alors, Jargeau, Saint-Jean-de-Breil, Donc ça, c'est du côté de Saran, Vierzon, Carquefou. J'ai regardé un peu la poule. On va avoir Chambrel et Tours. On va avoir joué les Tours. Angers-Lac, normalement La Roche, si La Roche monte pas. Donc, on va avoir quelques déplacements à quasiment 3 heures de route, ouais.
Donc, peut-être un petit minibus,
ça pourrait être pas mal. D'ailleurs, si la mairie de Saumur et de Douai nous écoute, on va avoir besoin des minibus.
Le message est passé. On parlait, du coup, rapidement de cette saison en N3. Évidemment, tu t'attends à la question que je vais poser. C'est encore très tôt pour le dire. Comme l'année dernière, c'était très tôt quand on était en juin. Mais l'objectif à court terme, mais surtout à moyen terme, c'est quoi? C'est stabiliser le club au niveau national? C'est viser une nouvelle montée? On se positionne comment?
Ma conviction, c'est stabiliser le club au niveau national, faire monter l'équipe 2 aussi, l'équipe réserve. Ça va être un point très important si on veut continuer à évoluer. Après, dans tous les cas, moi, je m'attends à un championnat qui va être fort en émotion parce que c'est une poule de 12. Il y a 3 montées, il y a 3 descentes. Que tu sois dans les 6 premières ou que tu sois dans les 6 dernières, dans tous les cas, ça va être tous les week-ends une vraie bataille et ça va être haletant jusqu'à la fin de saison. Donc, je pense qu'on va, dans tous les cas, vivre une belle saison.
Pour avoir très vite passé, en tout cas, si on est au milieu de tableau, il suffit d'une très bonne série pour pouvoir aller jouer peut-être quelque chose qu'on n'avait pas espéré, comme une mauvaise série peut.
C'est ça.
Peut nous amener au pire.
C'est ça.
Les gars, vous avez peut-être des questions qui vous viennent avec cette première partie en tout cas d'interview.
Ouais, pourquoi pas. Moi, j'avais une petite question, ça va me permettre de rebondir sur votre saison à vous et puis pourquoi pas la saison prochaine aussi. On dit toujours que quand on a le statut d'outsider, c'est plus facile de faire des belles choses que quand on a le statut de favori. Je sais pas si c'est une réalité. Est-ce que pour vous ça a été le cas ou vous avez senti des fois que justement ça pouvait poser problème ce statut de nous on vient de monter, on n'est pas tellement à notre place et donc qu'est-ce qui se passe ensuite quoi?
Ah, il y a eu deux choses. Déjà, chez les adversaires, on s'est retrouvé souvent dans les discussions. Je me suis retrouvé face à des gens qui me disaient c'est bien pour une première année, pour une montée, c'est bien. Vous êtes pas trop mal, vous êtes milieu de tableau. Ça, c'était au début, on avait un match de retard, etc. Puis on avait deux défaites. Et puis finalement, le regard il a changé et les gens, pour beaucoup, m'ont dit attends, c'est votre première année là en prénat. Vous allez quand même pas faire de montée d'affilée. si, c'est le projet. et nous, en début de saison, ce côté outsider, ça a forcément joué, notamment le premier match où clairement on n'a pas été au niveau de ce qu'on pouvait proposer parce que tout le monde déjà trouvait ça beau d'être en prénat. Je pense qu'on n'était pas toutes. Enfin, tout le monde n'était pas prêt à affronter et à assumer que le fait que oui, on y est et on a tout à fait notre place d'y être. Voilà.
Bon, maintenant, il reste un match. Ce match-là, on a prévu que ce soit un petit peu la fête au sein du club. Il y a pas mal d'animations qui vont être proposées, sans trop spoiler. J'en verrai qui me regarde à ma droite. Mais il y a pas mal d'animations qui vont être proposées. Il devrait y avoir du monde à la salle. Comment on aborde ce match-là? J'imagine qu'on est détendu, mais on a aussi très envie de le gagner pour se faire plaisir et faire plaisir à tous les gens qui vont être là.
On a très très hâte de jouer le 24. On l'attend avec impatience ce match. On a envie de profiter de ce dernier match en pré-national déjà, de profiter avec toute l'équipe, de jouer détendu, de jouer sans cette pression qu'on a eue en permanence quand même sur tous les matchs, surtout à la fin. On n'avait pas le droit à l'erreur. Et là, l'idée, c'est de jouer détendu, de profiter et de profiter aussi de tous les supporters qui seront là, qui nous ont aussi suivis toute l'année, qui nous ont permis aussi d'être sur cette première place. Ils nous ont accompagnés sur nos déplacements. Ils étaient là chaque week-end pour nous soutenir. Et l'idée, c'est aussi de les remercier avec une victoire sur ce dernier week-end. Et de profiter de faire la fête à la fin.
Toi, qu'est-ce que tu vas leur dire dans le vestiaire avant le match?
Je vais leur dire de profiter un maximum, de savourer le moment. C'est ce que j'ai dit déjà l'année dernière hein, sur le dernier match. C'est des moments hyper rares qu'il faut savourer. Et je vais leur demander d'être sérieuse sur le match pour proposer un beau spectacle et une belle fête. Et puis bon, après on va préparer deux trois petites choses quand même pour qu'il y ait un peu de spectacle sur ce match.
C'est noté. Je suis en train d'imaginer. Bon, toi Thomas, donc l'année dernière t'as pu déjà les suivre pas mal. Cette année t'as quand même suivi aussi quelques matchs. En quoi cette saison elle a pu être différente pour toi qui a un œil externe à l'équipe quand même?
En tant que vidéaste du coup tu veux dire?
Non. Déjà en tant que, on va dire en tant que spectateur en premier.
Bah déjà j'avais des enjeux qui étaient différents parce que moi je savais que je voulais filmer dans tous les cas et je voulais profiter aussi du spectacle parce que c'est vrai que le niveau il a changé, c'est plutôt encore plus agréable à regarder. Et ouais c'est ça, c'était l'objectif. J'avais toujours en tête de toute façon la suite qui allait se passer parce que je voyais forcément les résultats qui avançaient tout ça. Et cette année moi j'y croyais donc en fait c'était encore plus plaisant de venir les voir, même à l'extérieur j'essayais de venir quand je pouvais. Donc franchement c'était du spectacle on va dire.
Et maintenant tu m'as lancé en tant que vidéaste. Cette saison, déjà, comment tu l'as suivi et t'en es où? Qu'est-ce que t'imagines? Dis-nous tout.
Il faut tout que je spoil du coup.
Non. Mais pour non, ça, non, tu me dis ce que t'as envie de nous dire.
Non, je pense que cette année déjà, j'étais beaucoup plus prêt. Non pas que j'y croyais pas les autres années, mais j'étais beaucoup plus prêt en termes de logistique pour le préparer. Donc un documentaire, je l'annonce là, mais j'ai déjà annoncé. J'ai refilmé cette année les filles pour la montée. Et donc le but c'est de filmer un peu tout le parcours cette année, de raconter un peu une histoire différente de l'année dernière, parce que l'année dernière on s'est vraiment focalisé sur la fin de saison etc. Là j'ai envie d'avoir toutes les joueuses, le ressenti du staff etc. pour avoir plus d'émotions, donc là plutôt mieux préparé et donc pour mieux célébrer à la fin tous ensemble quoi.
Et logistiquement on va dire, après déjà avoir fait un documentaire, on peut dire t'as aussi fait un très long documentaire sur la motocross avec Camille Vio, voilà une rideuse, je sais pas de la région. Comment tu te sens prêt pour faire ce documentaire? Tu te sens mieux armé déjà?
Ah oui, mieux armé oui c'est sûr parce que je sais un peu mieux comment gérer tout ça, comment filmer, comment écrire parce que forcément faut créer un petit peu du coup. Quand on arrive au milieu de la saison, faut se dire qu'est-ce qu'on fait de tous ces rushs, qu'est-ce qu'on veut dire. Et là, je sais exactement où je vais aller avec ce documentaire. J'espère toucher les gens. Enfin, c'est le but, quoi. C'est un peu de marquer aussi pour avoir un souvenir pour les filles. Le but, c'est de marquer tout ça. Donc, je pense que je suis bien préparé avec les documentaires que j'ai pu faire auparavant. Et donc, là, l'objectif, c'est vraiment de transmettre des émotions. Donc.
Voilà, on va pas aller beaucoup plus loin. On laissera la surprise aux gens de découvrir ce documentaire. Mais je vais rester un petit peu avec toi. Parce que bon bah on a eu cette montée, mais on a aussi eu un maintien qui s'est validé ce week-end, celui de l'équipe masculine. Alors la saison n'a pas été simple, mais le maintien est là. On a envie de dire que le résultat obtenu, c'est celui qu'on recherchait, et tu peux être heureux de ça déjà.
Ouais, moi en vrai on est très heureux. Je pense qu'on est plutôt content, ouais, parce que forcément on a un match de la fin aussi, donc c'est important de le valider maintenant parce que donc je serai pas au dernier match de la saison en tant que joueur du coup, parce que c'est le match des filles en même temps. Et franchement très heureux de le valider ce maintien parce que on a vécu une saison en dents de scie, donc forcément fallait qu'on se rassure, qu'on ait un peu confiance en tout le collectif parce que c'est un collectif qui se connaît, mais en même temps il y a des joueurs qui sont montés qui n'avaient pas l'habitude de jouer avec certains autres joueurs, donc le but c'est aussi de se rassurer et de se dire qu'on avait les armes pour jouer à ce niveau-là quoi.
Ouais, notamment des joueurs importants de l'équipe qui arrivent de jeunes.
Ouais.
Je pense à Baptiste, ouais, voilà, le demi-centre, qu'il faut s'habituer aussi à ce niveau-là.
Ouais, exactement, c'est aussi c'est une question de niveau, une question de mentalité en vrai, parce que quand on est jeune et qu'on arrive dans un collectif comme ça avec des anciens, je me compte pas dans les anciens du tout. Quand je parle d'autres joueurs, et ben faut aussi jouer avec les caractères de chacun, etc. C'est pas que du vent, c'est aussi appréhender les émotions de chacun, quoi.
Il y a eu un changement de coach en milieu de saison. Est-ce qu'on peut dire que cet épisode, bien qu'il soit inattendu, il a finalement été presque bénéfique au groupe parce qu'il a il a relancé une dynamique, il a redonné de l'envie peut-être de prouver qu'en fait on était vraiment capable de le faire.
Ouais, clairement. Bah avec en changement de coach, on a fait 4 victoires sur 5 matchs. Donc je pense que oui, c'est plutôt très positif, ça nous a remotivé. Je pense que ça nous a permis aussi de nous dire qu'il fallait qu'on se bouge. En fait, c'était un peu ce qu'il nous fallait quoi. On se reposait un petit peu sur nos acquis, on va dire, alors que là on était obligé d'y aller si on voulait se maintenir. Donc je pense que ça nous a bien servi en fait.
Comment maintenant, alors là c'était juste un joueur au sein de l'équipe, mais on imagine un petit peu la suite. Même Pierre-Élie, tu peux aussi répondre, hein, tu connais je pense quand même bien ce qui se passe dans tout le club. Comment on imagine la suite? Il va y avoir des départs qui se profilent, peut-être des arrivées, ça c'est, on sait toujours pas. La suite, comment on la voit?
Déjà, j'espère des arrivées, parce que j'ai entendu quelques joueurs partir, enfin dire qu'ils allaient partir, donc ça va être un défi à la rentrée de remobiliser des troupes, d'autres personnes, et aussi dans l'idée d'avoir un coach. Donc si des gens sont motivés pour nous coacher, c'est pareil, j'en sais un appel, mais on recherche un coach. Donc enfin voilà, c'est différentes missions qui vont être amenées à avoir lieu dès la fin de saison et dès le début de saison prochaine, remobiliser des troupes, retrouver un coach, et nous faut qu'on garde toujours notre esprit collectif, quoi.
Toi, Pierre-Ali, comment tu vois cette suite du côté de la filière masculine?
Alors moi, là, c'est la casquette de manager général du coup que je dois prendre. Déjà, le premier enjeu, c'est de trouver un coach, un entraîneur pour ce collectif. Pour le moment, j'ai sollicité pas mal de monde, j'ai pas eu de retour positif. J'espère que ça va changer. Dans tous les cas, moi, je vais être un peu plus mobilisé sur ce groupe, pardon. Après, en termes de joueurs, tous les ans, on a du monde qui arrête, tous les ans, on a du monde qui arrive, et tous les ans, on a aussi des joueurs qui annoncent qu'ils arrêtent, et puis finalement, ils restent. Donc, pour l'instant, je me positionne pas trop. Je sais juste qu'on a quand même beaucoup de matière et de belles matières, et on arrivera à faire quelque chose, et ce sera peut-être aussi l'occasion de repenser ou réinventer un projet de jeu. Et moi, je suis assez confiant. Je suis assez confiant pour les gars, même s'il y a eu des changements dernièrement, ça va le faire.
Et question peut-être un petit peu difficile, mais côté du club, comment on articule un petit peu les deux projets, à la fois le masculin, le féminin? Est-ce qu'on essaye vraiment de lier ça peut-être pour de servir de ce qui a bien marché chez les filles pour faire la même chose chez les garçons?
Oui, clairement. Alors déjà, on est un club qui veut absolument garder cet équilibre entre la filière masculine et la filière féminine, et il n'y aura pas plus de moyens mis pour les filles que pour les gars. C'est en tout cas les dirigeants, c'est pas dans ce sens-là qu'ils veulent aller. Mais pour l'instant, les résultats des filles sont positifs et l'équipe monte. On n'est pas à l'abri que ça arrive pour les garçons aussi. On a des très belles générations de jeunes qui arrivent et on continue. Camille, donc ma collègue et moi, et notre futur apprenti Baptiste, on continue à être mobilisés sur la filière masculine, pour justement en fait permettre que dans un avenir proche, à moyen et à long terme, on puisse aussi en masculin gravir les échelons. Donc la filière masculine n'est pas délaissée, au contraire, on est tous mobilisés pour que ça avance.
Les garçons, peut-être une dernière question avant peut-être un petit mot de la fin. Faustin.
Ouais, moi je me demandais tout à l'heure quand vous parliez des obligations pour entre les différentes divisions. Est-ce que là, il y a eu vraiment, c'est là que tu as vu les plus grandes différenciations entre la Prénat et la Nationale plutôt que la montée de la saison dernière?
Alors là, pour le coup, il n'y a pas une grosse différence en termes de nombre d'arbitres qu'on doit fournir, d'écoles d'arbitrage au club avec des animateurs d'écoles d'arbitrage, etc. Il n'y a pas une grosse différence dans ces obligations-là pour le moment entre la Prénat et la N3, donc on va bien s'en sortir. Mais par contre, si on devait un jour aller au-dessus, là on aurait beaucoup plus d'imposition et il faudrait qu'on se structure en conséquence. Ouais.
Ok.
Mathéo.
Non, bah moi je voulais juste vous féliciter pour ce beau parcours, tout simplement. Et puis j'espère au nom de toute l'équipe, mais que ça se passera magnifiquement bien pour vous la saison prochaine. Et puis on a hâte de voir ce documentaire.
Voilà. Peut-être que vous reviendrez dans l'émission pour autant parler du documentaire. Ça pourrait être le rendez-vous annuel.
Stupide.
Voilà. Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin, une petite demande, une petite dédicace à faire?
On peut peut-être vous dire rendez-vous le 24 mai.
Rendez-vous le 24 mai.
21h à Saumur.
Voilà, Saumur, gymnase Jean Chacun. Il y aura du beau hand et des animations. Donc voilà.
Et une belle fête du coup qui aura du côté de Saumur. Voilà, merci le club de l'Union Saumur-Douai Handball d'être venu dans l'émission. On va tout de suite passer à la pause musicale avant d'enchaîner sur le JT international. Et du coup, on va s'écouter Champagne et Jersey de Yanis.
Champagne et Jersey. Champagne et Jersey, mannequin dans mes DM, je me prends pour Sean Penn ou Jay-Z. Bientôt 22 ans que j'ai plus l'âge, passé 22 heures, je suis plus là. Je donnerai de mes nouvelles sur un son de JD. Elle aime Champagne. Elle a confiance en ce qu'elle propose, si qu'elle veut voir autre chose. Mais je me répète que j'ai pas son time. J'arrive pile à l'heure, juste pour que tu me répètes ce que t'as déjà dit à d'autres. Plus à nous, à part sur des airs de violon, des notes de. Tu parles de quoi? Tu parles de toi? Moi je suis focus, je te rends bien compte au vieux. Moi je parle au mic, moi je parle aux yeux. Je parle aux darons, je regarde pas, puis je parle aux cieux. Je me prends la tête, prends pas la mienne. Quoi qu'il arrive, je vends pas la mèche. Nouveau distro, je me paye un nouveau trip. Fort qu'on maîtrise trop, c'est ça qui nous motive. Champagne et Jersey, mannequin dans mes DM, je me prends pour Sean Penn ou Jay-Z. Bientôt 22 ans que j'ai plus l'âge, passé 22 heures, je suis plus là. Je donnerai de mes nouvelles sur un son de JD. Elle aime Champagne. Elle a confiance en ce qu'elle propose, c'est qu'elle veut voir autre chose. Mais je me répète que j'ai pas son time. J'allais pas chez le PSY, crack, j'écoutais PSO. J'écoutais papy siffler. Mon plus beau maillot dans un club avec le noyau dans un thème. Ils mettent en garde, me disent mon train de vie les fait flipper. Yeah, bien trop en avance pour une avance. En plus y'a que 5 chiffres sur ce que tu proposes. La mélo je fredonne pendant que mes propos. Une quiche épaisse, moi je suis à propos. C'est ça mon propos.
Pour mes bros, pour tous mes bros, tous mes rois. Faut que je shout out tous mes OG, c'est logique.
Champagne et Jersey, mannequin dans mes DM, je me prends pour Sean Penn ou Jay-Z. Bientôt 22 ans que j'ai plus l'âge, passé 22 heures, je suis plus là. Je donnerai de mes nouvelles sur un son de JD. Elle aime Champagne. Elle a confiance en ce qu'elle propose, c'est qu'elle veut voir autre chose. Mais je me répète que j'ai pas son time.
Et voilà, c'était Yanis avec son son Champagne et Jersey. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio G, le 101.5 FM ou le site www.radio-g.fr. On va tout de suite passer au JT international avec toi, Mathéo.
Oui, et on commence avec un moment d'histoire. Ce dimanche se déroulait le Grand Prix de France en MotoGP. Je pense que personne n'est passé à côté, mais je vais quand même remettre du contexte. 71 ans qu'aucun Français ne s'était imposé dans ce Grand Prix de France. Le dernier fut Pierre Monneret en 1954 à Reims, donc même pas au Mans. Et alors, pour faire une comparaison un peu géopolitique, hein, pour vous situer à quel point c'est lointain, la France venait tout juste depuis une vingtaine de jours de perdre la guerre d'Indochine, n'était même pas encore entrée en guerre contre l'Algérie. À l'international, on est à 12 jours après l'arrêt Brown v. Board of Education qui marque le début de l'ère des droits civiques aux États-Unis. Et enfin, le premier accident nucléaire majeur a lieu quelques mois plus tard en URSS. Donc c'est une époque bien lointaine qui justifie cette attente autour, dans un premier temps, de Quartararo qui part en pole position et qui reste constant jusqu'à cette terrible chute au quatrième tour. Une course piège à cause de la fine couche de pluie qui s'est installée à quelques secondes du départ, du jamais vu. C'est sans doute la raison de la chute de Fabio dans l'un des plus durs virages du Mans. Derrière le circuit sèche, les pilotes qui avaient choisi des pneus pluie reprennent leur moto pour faire leur moto faite pour du sec. Ceux qui avaient changé de moto avant le départ réalisent donc deux longues laps, des scènes surréalistes, et c'est alors que la pluie reprend, passage à nouveau obligatoire vers les stands pour tout le monde. Un homme avait failli chuter en début de course, mais il avait maintenu sa moto à flot. À une seule main, ce même pilote qui, si on observe alors le classement à droite, reprend petit à petit des places. Lui qui, à la fin du premier tour, était 17e, il est désormais 5e. Tout le monde, y compris les commentateurs, pense alors qu'il va devoir, comme tout le monde, donc changer de moto, car il n'a pas ses pneus pluie. Mais non, car s'il y en a un qui excelle sur ce genre de piste, c'est bien Johann Zarco. Moment d'euphorie totale donc pour les 311 000 personnes présentes sur place. D'ailleurs, après avoir revu les images, c'est lui qui arrive en premier au stand lors du changement de moto, lors du tour de chauffe. Ce qui veut dire donc que l'opportunité qui s'est présentée dans sa tête était absolument géniale pour lui. 7 secondes d'avance sur ses poursuivants qui se sont livrés une bataille pleine de rebondissements avant de voir Marc Marquez s'envoler. Zarco finit à plus de 21 secondes. Course parfaite, stressante pendant 18 tours sur les 26 totaux. Mais à la fin, la malédiction est brisée. Un Français a gagné au GP de France. Ces images tellement fortes de ses parents venus pour la première fois en 17 ans de carrière voir leur fils, puis des milliers de Français chantant la Marseillaise, donnant des scènes de louanges lors du backflip de Zarco. C'est tout un univers qui attendait ce moment. Je pense que si ce scénario nous avait été proposé au cinéma, tout le monde aurait assurément rigolé et parlé d'un film irréaliste bercé par une histoire qui se comble elle-même. Mais l'impossible, l'invraisemblable est possible grâce à un homme. Merci Johann Zarco. C'était une course attendue donc pour Quartararo, rendue historique par Zarco. Est-ce que quelqu'un l'a regardé autour du plateau?
Alors, pas regarder la course, mais évidemment...
T'as vu les images.
Voilà, on a vu les images. J'ai commencé par voir la notif l'équipe me disant que Quartararo était tombé, ce qui m'a pas forcément donné envie de regarder le GP, je pouvais regarder. Et évidemment, après, on le regrette un petit peu, mais non, c'est magnifique, je pense que t'as tout dit. C'était aussi magnifique ta chronique que le Grand Prix, je crois.
Bah merci, ça fait plaisir. J'ai du mal à y croire.
C'était vraiment pas mal.
C'était vachement impressionnant. Et toi, Faustin, t'as suivi un peu ou...
Ouais, pareil, j'ai vu les images comme Amaury. J'avais vu Quartararo en pole position. Je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Et au final, je vois la fin de la course, Zarco vainqueur. C'était un scénario dingue comme on en voit très rarement. Et forcément, au GP de France, ça fait encore plus plaisir.
Le GP de France, peut-être le plus historique de l'histoire. On verra ça. On part en cyclisme désormais avec le Giro qui a commencé vendredi. Première étape en Albanie, gagnée au sprint par Mats Pettersen devant Wout van Aert, le Danois qui le lendemain a perdu son maillot rose lors du contre-la-montre au profit de Primoz Roglic. Deuxième derrière le Britannique de chez Ineos, Joshua Tarkling, qui faisait office de favori avant la course et qui a su répondre présent en solitaire. Et puis dimanche, nouveau rebondissement, Pettersen reprend le maillot rose des épaules de Roglic au terme d'une course remportée par le Danois qui prend d'ailleurs 9 secondes d'avance sur le Slovène. Aujourd'hui, quatrième étape, la première en Italie entre Alborello et Lecce, avec une surprise à l'arrivée, la victoire au sprint du Néerlandais Casper Van Hooyden devant tous les favoris. Aucun bouleversement donc au classement général du côté de nos Français. Le premier est 21e, il s'agit de Romain Bardet qui est à 1 minute de Mats Pettersen, et David Gaudu, lui, est 23e avec 3 secondes de moins que le Brivadois. Est-ce que tu as pu suivre ce début de Giro, Amaury?
Ce week-end, ça a été pas mal chargé, donc j'ai pas vraiment pu regarder la course. Maintenant, j'ai pu suivre un petit peu les résultats. Moi, j'espère que Romain Bardet, pour son dernier grand tour, va avoir un peu de retard, pouvoir partir en les échappées et pourquoi pas aller jouer des victoires. Faut pas qu'il reste trop proche de la semaine générale, sinon on le laissera pas partir. Donc moi, finalement, qu'il prenne un petit peu de retard et que dans deuxième et troisième semaine, il se fasse plaisir en montagne. Pourquoi pas peut-être jouer un maillot à poids, on sait jamais. En tout cas, aujourd'hui, il y a certainement plus le niveau pour aller jouer les premières places au classement général, mais je pense qu'il peut toujours faire mal en montagne dans des échappées. Donc j'aimerais bien le voir aller chercher une petite victoire.
Puis on va aller voir les étapes de montagne. Pour l'instant, c'est le début de la course, un peu à l'image du Tour de France, même si on a eu un contre-la-montre quand même. Donc ça, c'était assez intéressant à noter. On va parler foot désormais, un petit peu quand même. On va pas trop prendre de temps sur le football, mais il y a quand même une grosse info qui a été lâchée aujourd'hui par l'équipe. La LFP pourrait disparaître dès la saison 2026-2027. C'est la FFF qui prendrait donc les rênes du football professionnel en France. Les clubs auraient plus de poids dans les décisions et c'est une société commerciale sous loi 1901 qui prendrait le relais. Plus de cadres concernant les dépenses. C'est une idée un peu à l'image de ce qui s'est fait en Arkena, à savoir un système de play-off, de gros changements à venir nécessaires au vu de ce qui s'est passé sur les dernières années. Est-ce que tu pourrais être d'accord avec ces affirmations, Faustin?
Voilà, c'est un gros projet quand même qui se monte. Donc faudra voir un peu tous les tenant et aboutissant des choses concrètes qui pourraient se passer, mais c'est intéressant quand même de voir que le football essaie de se renouveler. C'est quelque chose qu'on dit qu'il faudrait faire, qu'on perd un peu en puissance, on se lasse sur certains points et tenter des choses, bah je suis pour. Je suis pour voir des nouvelles formules dans le foot et j'espère que ça va fonctionner et que ça pourra se faire.
On a souvent dit que la Ligue était plutôt sectaire à Maury. À ce niveau-là, c'est assez étonnant de voir justement que la FFF prend une décision qui n'est pas du tout. Est-ce oui. que c'est étonnant?
Bon, alors, oui, c'est très étonnant, mais en fait, quand on voit ce qui s'est passé en Ligue des Champions où tout le monde était hésitant vis-à-vis de la nouvelle formule et quand on voit comment finalement ça plaît, et ben pourquoi pas tenter aussi en Ligue 1 de relancer ça d'une autre manière? Moi, franchement, je suis pour. Alors que les places européennes soient gardées vis-à-vis du classement général sur la saison, ça c'est très bien. Partons pour le champion, pourquoi pas. Maintenant, j'imagine que les fans du Paris Saint-Germain vont moins être d'accord dans le sens où il y a plus de risques de pas être champion parce que ça joue sur un match plutôt que sur une saison. Voilà, c'est après. Mais pour le bien du foot, je pense que ça peut être pas mal.
Faudrait faire attention aussi au fait que ça rajoute pas trop de matchs une fois de plus.
Ce que j'ai vu, c'est sur ça rajouterait deux matchs. Maximum, ce serait une demi-finale et une finale parce que ce serait pour les quatre premières équipes du championnat.
Ouais, les équipes qui seraient qualifiées en Ligue des Champions finalement. Voilà. Ouais. Bah après, on verra. Ce qui est dommage, c'est que pour le coup, ça n'a pas profité totalement aux équipes en D1 Arkéna. Donc à voir si ce sera la même chose en Ligue 1 où le PSG est au moins au niveau de l'OL en termes de différence avec les autres équipes, même si ça se régule un petit peu en D1 Arkéna. Mais l'idée en global, elle est plutôt intéressante, je trouve. Et puis même le fait d'enlever la LFP qui au final en tout cas sur les décisions récentes
ce serait sympa.
Voilà, peut-être qu'on aura des droits TV intéressants. Voilà. On part maintenant au Masters 1000 de Rome, donc avec des matchs très disputés, indécis, prometteurs donc pour Roland Garros. Chez les féminines, c'est aujourd'hui le début des quarts de finale. On a pu voir Jasmine Paolini se faire sortir par la tête de série numéro 13 Diana Schneider. Chez les hommes, Musetti s'est qualifié en 2-7, 7-5, 5-4 face à Medvedev. Carlos Alcaraz a failli se faire surprendre par Karen Khachanov, mais a fini par s'imposer 6-3, 3-6, 6-5. Pas d'exploit, mais un très beau match de la part de Corentin Moutet contre la tête de série numéro 5, Jacques Draper. Un premier set à la faveur du français, 6-1, puis 2-7 remporté par l'anglais, qui se qualifie donc pour les quarts de finale où il affrontera Carlos Alcaraz. Et puis en ce moment même, Arthur Fils tente de créer l'exploit face à la tête de série numéro 2, Alexander Zverev, donc un des grands favoris du Masters 1000 de Rome. Et pour l'instant, il y a 5 partout et un avantage pour Arthur Fils qui pourrait donc prendre ce premier set dans les minutes qui suivent. On va parler un
avantage
petit peu
perdu.
De... Avantage perdu. Bon. Eh ben, c'est serré. Suffisait de le dire. Non, mais c'est serré, c'est toujours ça. Les matchs Fils-Zverev, on commence à connaître maintenant. Et puis pour finir ce petit JT avant, pourquoi pas de parler de la NBA, Faustin. Moi j'avais envie de parler un petit peu de volley, pourquoi pas, donc puisque c'est la finale de la Marmara Spike League, le championnat de France masculin de volley, donc qui a vu Tours s'imposer contre Poitiers dans le premier acte. On rappelle que c'est une finale aller puis retour. Ce premier match était à Poitiers, c'est donc Tours qui réalise, au-delà de la victoire, la très très bonne opération dans une salle Lawson Body à guichet fermé, forcément hostile donc autour Rangeau. Un derby qui tourne donc à l'avantage de Tours, pourtant quatrième de la saison régulière, mais qui a su rattraper, gommer cette saison compliquée avec cette victoire 3-7-1. Mais il reste donc un match, tout est possible pour être sacré champion de France et s'assurer une place en Ligue des Champions de volley. Qui sera champion donc? Réponse samedi prochain au terme forcément d'un match fou et peut-être d'un set en or.
Je vais juste ajouter sur le volley, c'était la semaine dernière en féminin, c'est Paris qui s'est imposé 2-3, 7-2 en finale contre Nantes. Donc voilà, les Nantais qui ont fait en finale mais qui n'ont pas pu s'imposer, qui sont vice-championnes de France.
Ce qui est quand même très très beau.
C'est quand même très bien. Voilà. Je l'avais dans ma chronique de la semaine dernière, mais on n'a pas eu le temps, donc voilà.
Tu fais bien d'en parler.
Le calé maintenant, on en reparlera du coup aussi la semaine prochaine pour
forcément,
suivre l'avancée de ce championnat. On va se diriger vite fait du côté de la NBA, on va traverser l'Atlantique, parce qu'il s'en est passé des choses cette nuit, et on va commencer directement dans le vif du sujet avec ce match. De cette nuit, des Knicks qui ont battu les Celtics et qui mènent désormais 3-1 dans la série, ou alors qu'ils partaient complètement désavantagés, personne ne les donnait vainqueurs, et je pense que pour le plus grand plaisir de Paulin, fan des Knicks, qui doit être comme un dingue toutes les nuits devant son écran. Amaury, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette série?
Dire que je suis très mauvais pronostiqueur, que vous aviez annoncé une victoire 4-3 des Celtics. On ne peut encore être dedans, même si ça risque d'être compliqué. Moi, j'étais sur un 4-1 des Celtics, donc on en est bien loin. Je suis choqué complètement. Je m'attendais pas à ce que les Knicks puissent proposer du jeu comme ça. Même si Bon, finalement, quand on regarde les matchs, j'ai l'impression que Boston joue mieux, mais à chaque fois, ça finit dans les mains des Knicks.
Donc c'est un peu un diesel, les Knicks. À chaque fois, ils prennent, dans leurs 3 victoires, ils perdent 2 fois de 20 points au moins dans le match et de 14 cette nuit. Et à chaque fois, ils arrivent à revenir parfaitement. Là, en plus, cette nuit, un événement majeur, c'est aussi la blessure de Jason Tatum.
Pourtant, qui réalise un match monstrueux.
Ouais, qui met 42 points, 8 rebonds et 4 assists. Mais se blesse dans la fin de match où il aurait pu sauver son équipe. De ce qu'on a vu, en plus, c'est une blessure sans contact. Donc on sait toujours que c'est là qu'il y a le plus de risques. Ce sera pas une simple entorse. Là où il se tenait le tendon d'Achille. Donc on craint. Il pouvait plus marcher après. On peut craindre une rupture du tendon d'Achille, pardon. En espérant que ce soit qu'une rupture partielle et qu'il puisse être de retour le plus vite sur les parquets.
Même en tout cas, ça paraît impossible pour les playoffs.
Voilà, c'est ça. Sachant que à tout moment c'est fini dans 2 jours pour les Celtics. Parce que plus qu'un match suffirait pour les Knicks. Une autre série inattendue, toujours à l'Est, c'est les Pacers qui mènent là aussi 3-1 contre les Cavs. Les Pacers qui avaient fini 4e de saison régulière et les Cavs qui avaient fini 1er en roulant totalement sur l'Est et même quasiment sur la NBA. Et ils se prennent un 3-1 par les Pacers. On pouvait comprendre au début, il manquait des joueurs du côté des Cavs, mais là tout le monde est revenu. Et pourtant, ils se prennent encore une gifle la dernière fois. Il y a eu jusqu'à 40 points d'écart. C'était tout simplement énorme. Et en fait, ces Pacers, tout simplement, ils jouent bien.
Ils jouent bien, ils shootent mieux. Que dire de plus, encore une fois complètement trompé, mais je pense que je suis pas le seul du tout. Là, déjà dans nous tous, on les avait tous mis perdre au premier tour contre les Bucks. Finalement, ils vont passer en finale de conférence. Il y a de grandes chances en tout cas qu'ils passent en finale de conférence. Bravo à eux, ça joue bien, c'est beau à voir, ça fait plaisir. Et à côté, Cleveland très décevant. Une équipe qui on a pris plaisir à regarder pendant toute la saison, qui réalise un premier tour parfait, 4-0, et en mettant des gifles aussi au hit. Et finalement, ils mettent pas un shoot dedans. Le ballon circule moins vite qu'avant. Ça défend pas aussi fort. Évidemment, derrière, face à une équipe qui joue, c'est évidemment trop dur.
Ouais, ça, c'est Tyrese Haliburton qui avait pris très mal le fait d'être le joueur le plus surcoté de NBA qui a voulu répondre et il y arrive parfaitement. À l'ouest, maintenant, on a la série, un 3-1 entre les Wolves et les Warriors. C'est les Wolves qui mènent 3-1 contre les Warriors.
J'avais annoncé cette fois. Ouais, moi, cette fois, on est bon.
J'allais dire la série qui me paraît le plus logique. Là, les Wolves qui mettent 3-1 aux Warriors avec en plus la blessure de Stephen Curry. Les Warriors, ça va vraiment être compliqué pour eux. On sait que Stephen Curry ne reviendra pas pour le match 5. Il reviendra normalement pour le match 6, s'il y en a un, parce que du coup, une seule victoire suffirait aux Wolves pour en finir.
C'est du côté de Minnesota, chez eux, sans Steph Curry.
Voilà.
Avec un Randle qui m'impressionne match après match. Je pense que ça va faire 4-1 et c'est le score que j'avais annoncé. Si on peut me laisser au moins un bon pronostic pendant toutes ces playoffs, plier ça au match 5.
On va voir. C'est Randle, moi aussi, qui m'impressionne. Je me souviens au début de la saison, on disait, il a du mal à s'adapter à cette équipe, les Wolves vont moins bien. Et puis au final, dans ces playoffs, il se réveille et il joue magnifiquement bien. Il tourne à 25 points quasiment de moyenne, 8 assists, j'ai vu là sur la série contre les Warriors. Donc c'est vraiment très très fort ce qu'il nous propose dans ces playoffs. La dernière série qui oppose tout simplement les deux MVP entre le Thunder et les Nuggets. Il y a 2-2, c'est la plus serrée, même si on est là aussi un peu surpris. Moi, le premier qui avait annoncé un 4-0 de la part du Thunder, où les Nuggets arrivent à répondre, malgré un Nikola Jokic pas forcément parfait.
Jokic qui est très très loin de son niveau de saison régulière, même en soi sur le premier tour, statistiquement, il a été moins impressionnant, mais là, quand on regarde, il perd 4-5 points par rapport à la saison régulière, il fait moins de passes, il prend à peine le même nombre de rebonds, surtout les pourcentages de tirs qui sont beaucoup plus faibles, et pour autant, c'est le collectif qui répond du côté de Denver, ce qu'on a beaucoup critiqué aussi au cours de la saison.
Ce qui manquait au premier tour.
Ouais, et voilà, et finalement, il passe contre les Clippers, c'était loin d'être donné et là ils mettent à mal cette équipe de OKC. Alors le dernier match que j'ai regardé, je sais pas si t'as pu le voir dimanche soir, avec un premier carton qu'il ne fallait pas regarder si vous vouliez découvrir le basket, car c'est absolument le pire carton de l'histoire des playoffs en termes de nombre de points, 25 points sur l'ensemble du carton, mais les deux équipes cumulées. Pour ceux qui suivent pas trop le basket, normalement c'est au minimum à peu près 25 points par équipe sur un carton, donc là cumulé c'était pas beau à voir, mais c'est une série qui va être continue d'être passionnante et qui, je pense, ira en 7.
Ouais, il y a des chances et moi j'espère que le MVP sera annoncé pendant que cette série a lieu, pour qu'il y ait un petit égo de soit Jokic, soit de Shai qui soit piqué et qui se réveille et qui nous sort une série exceptionnelle. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. On va encore féliciter et remercier l'Union Saumur-André Handball.
Saumur-Doué Handball, allez.
J'ai vraiment du mal, désolé, avec ce USDH.
Voilà.
C'est pas pour moi, bref. merci d'être venu et encore félicitations pour cette montée. Et on va se quitter avec tout de suite l'émission Imaginaire. On vous souhaite à la semaine prochaine.